Pour les enfants, continuant toujours nos petites explications de la liturgie, aujourd'hui j'ai essayé de vous expliquer comment est-ce que le prêtre est vêtu, pourquoi, qu'est-ce que ça symbolise, etc. Le prêtre, pour dire la messe, c'est normalement le seul sacrement pour lequel il a ce vêtement-là, c'est le vêtement de la messe, a une chasuble. La chasuble, c'est le grand vêtement rond dans lequel il s'enveloppe. Chasuble, ça vient de casula, petite casa, petite maison. La chasuble, c'est là le vêtement dans lequel le prêtre rentre. Ça l'habite comme une maison. La chasuble, elle nous vient de Rome. C'est sans doute une dérivation, un vêtement qui a un petit peu évolué de la toge romaine, c'est-à-dire le grand drap dans lequel les nobles romains s'entouraient, s'enveloppaient. Le prêtre est revêtu d'une certaine noblesse, puisque dans la messe, il représente le Christ, il va dire les mêmes paroles que le Christ. Donc on lui donne le manteau des nobles, c'est-à-dire la toge. Et puis, comme la toge n'est pas très pratique, on a fini par en faire un vêtement un petit peu comme ça, dans lequel on s'enveloppe. Et ce que symbolise la chasuble, c'est la charité. Pour dire la messe, il faut avoir le cœur rempli d'amour. C'est le don du Christ qui se donne à nous par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc, le prêtre qui va réaliser ça à la messe, il doit aussi le symboliser, le vivre dans son cœur, mais au moins le montrer à l'extérieur. Il faut être rempli de charité comme ça pour pouvoir assister à la messe et être en communion avec Jésus. C'est-à-dire que le prêtre disparaît dans ce vêtement. Qu'est-ce qui reste du prêtre une fois qu'il a mis la chasuble? La tête, les mains et les pieds. Tout le reste est enveloppé. Il faut, vous voyez, qu'au maximum, il y a la charité. Si on faisait plus long, je ne pourrais plus agir, plus marcher, plus vous voir. Donc on a coupé là où vous pouvez encore travailler, mais vous voyez qu'on ne voit plus le prêtre. Il est totalement dans la chasuble, c'est-à-dire qu'il doit être totalement imprégné de charité pour pouvoir dire la messe. Voilà le symbole de cette chasuble. En dessous de la chasuble, on la cache pendant la messe, on ne la cache pas pour les autres sacrements, il y a l'étole. L'étole, c'est simplement voilà, un grand ruban, une espèce d'écharpe que le prêtre met. Le prêtre le met comme ça autour du cou et ça tombe droit. L'évêque, avant, la mettait de façon croisée. Pardon, l'évêque la tenait droite. Le prêtre la mettait de façon croisée, comme ça. Et puis le diacre la met de côté. On a fait trois degrés, trois façons de porter cette étole. L'étole symbolise le pouvoir. Ce que je peux faire, ce n'est pas le pouvoir que j'ai de donner des ordres, c'est la potestas, c'est le pouvoir d'agir. Qu'est-ce que je peux faire? L'évêque, il peut tout faire, il a les mains libres, il a l'étole droite. Le prêtre, il peut faire ce que l'évêque lui dit, il a les mains liées à celles de l'évêque. Dans l'ordination, le prêtre met ses mains comme ça dans les mains de l'évêque. Donc on a les mains liées, si on peut dire, les pouvoirs liés à l'évêque. Il y a certains pouvoirs du prêtre qui sont déliés, si on peut dire, par l'évêque ou liés par l'évêque. Par exemple, le pouvoir de pardonner les péchés, c'est l'évêque qui le donne au prêtre, et l'évêque peut le retirer au prêtre. On peut rester prêtre et dire la messe et puis avoir le droit de confesser. C'est un pouvoir lié. Donc le prêtre, avant, avait l'étole croisée, maintenant on lui a mis droite. Ça reviendra. Et puis le diacre a l'étole de côté, comme s'il ne pouvait pas vraiment agir. Oui, il a pas l'étole dans le sens des mains, il a l'étole de côté, et on pourrait dire aussi, pour pas que ça le gêne, le diacre, il va devoir rendre service, donc il faut qu'il ait le devant un petit peu libéré pour pouvoir se mettre à genoux, laver les pieds des autres, etc. Voilà le symbole de l'étole diaconale, et puis aussi parce qu'il faut bien la mettre quelque part, on lui a mise en ce toit, on lui a mise de côté. D'où est-ce que l'étole vient? L'étole, elle vient de la chasuble. À l'origine, pour montrer les différents pouvoirs, je vous ai dit que la chasuble, c'est ce qu'on met que pendant la messe. On doit être rempli de charité. Oui, mais pour les autres sacrements, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait la chasuble, on la roulait, et puis on la mettait de telle ou telle façon. L'évêque la roulait, la mettait autour du cou, le prêtre la roulait et la croisait, le diacre la roulait et puis la mettait de côté. Donc une fois que vous avez roulé la chasuble, il vous reste une bande de tissu. Donc ça a donné l'étole, qui est un dédoublement, si on peut dire, de la chasuble. On ne va pas remettre une chasuble roulée en dessous. Enfin, donc, c'est devenu voilà, l'étole. Et ça symbolise, je dis, le pouvoir. Ce qu'on peut faire au nom du Christ. Parce qu'on peut faire plein de choses au nom du Christ en dehors de la messe. Confesser, bénir, marier, etc., baptiser. Tout ça, ça se fait toujours avec une étole. Et pourtant, ce n'est pas dans la messe. Ensuite, en dessous encore, vous voyez que le prêtre, il a toujours un cordon. On le voit un peu mieux chez les enfants de cœur. Mais il y a toujours quelque chose autour de la taille. Ça veut dire deux choses. Alors, il y a une signification aussi pratique, enfin, il y a un truc pratique. Comme on est en vêtements longs, c'est pas très facile pour marcher, sauf si je mets une ceinture. Si je mets une ceinture, je vais bloquer le vêtement au niveau de la taille, et quand je vais marcher, ça va faire la cloche, mais que à partir de la taille. Si je ne mets pas de ceinture, ça va faire la cloche à partir des épaules, et comme dans une cloche, je vais avoir le gond qui ne va pas en même temps que la cloche, c'est pour ça que ça sonne. Moi, je vais avoir les pieds qui ne vont pas en même temps que le vêtement. Assez vite, le vêtement il va être en décalage avec mes pieds, et je vais prendre les pieds dedans. Si je le bloque à la taille, je réduis le balancement, et le vêtement suit enfin mes pieds. Donc la ceinture, et c'est comme ça aussi dans la Bible, c'est ce qui permet de marcher. C'est aussi le symbole de l'envie de marcher. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, pour la fuite des Hébreux d'Égypte, il est dit que chaque homme devra manger la Pâque debout avec la ceinture au rein, c'est-à-dire prêt à partir. La ceinture, c'est ce qui permet de marcher quand on a un vêtement long. Donc, la ceinture, c'est ce qui me permet de servir le Christ, de faire ce qu'il a dit, de marcher à sa suite. Et puis, la ceinture est devenue aussi le symbole de la chasteté, le fait de consacrer sa vie à Dieu. Je n'aurai pas d'enfant parce que je donne toute ma vie à Dieu. Je ne consacre pas à une femme, je ne consacre pas à une famille, je me consacre totalement à Dieu. Donc c'est aussi ce symbole-là, si on peut dire, qui est passé chez les consacrés. La ceinture des consacrés signifie cela. Ce n'est pas le cas des enfants de cœur, leur ceinture c'est juste « je suis prêt à marcher à la suite du Christ ». La ceinture des consacrés, c'est « je suis prêt à marcher à la suite du Christ et je lui donne toute ma vie ». Et normalement, il y a une petite prière qu'on dit quand on s'habille à chaque vêtement. On se rappelle du symbole que ça représente en demandant au Seigneur « Seigneur, remplissez-moi de charité, Seigneur, faites que je me consacre à vous, que je marche à votre suite, etc. » En dessous encore, il y a l'aube. Ce vêtement-là, le vêtement long, c'est un vêtement normal en Orient. C'était encore le cas aussi dans l'Antiquité, en Rome, à Rome ou en Grèce, etc. Quand il fait très chaud, on a envie d'avoir un vêtement large, pas un vêtement qui colle à la peau, et du coup on s'habille en vêtement long. C'est donc, on pourrait dire, le vêtement normal d'avoir un vêtement long. Ça, c'est pas choquant. On a juste choisi la couleur, aussi le blanc, ça permet de ne pas avoir trop chaud, mais symboliquement, l'aube, alba, ça veut dire blanc, en latin, c'est ce qui est blanc, l'aube, quand le jour se lève, c'est avant que le soleil se lève, l'aube, ou l'aurore. C'est quand il y a du blanc dans le ciel, on passe du noir au blanc, c'est l'aube. Donc le vêtement blanc symbolise la pureté de l'âme. Le vêtement blanc, c'est le vêtement qu'on donne au baptême. Lorsque l'âme de l'enfant est unie à Dieu, on lui donne le vêtement blanc. C'est le symbole de la pureté. Mon âme est pure, elle est blanche, propre devant le Seigneur. Voilà ce que ça veut dire. Et symboliquement, on rappelle que pour approcher du Seigneur, il faut être en vêtement blanc. Dans l'Apocalypse, on dit qu'il faut avoir lavé son vêtement dans le sang de l'agneau, le sang de Jésus, c'est avoir demandé pardon, pour pouvoir participer au festin des noces de l'agneau, banquet de l'agneau, c'est-à-dire repas de communion avec le Seigneur. C'est un petit peu la même chose qui se vit à la messe. On rappelle qu'on doit avoir le cœur pur pour accéder à Dieu. Et vous voyez que tous ceux qui sont dans le cœur et qui servent à l'autel sont habillés en blanc. Les enfants de cœur sont habillés aussi en aube, en vêtements blancs, parce que quand on sert le Seigneur, il faut avoir le cœur pur. Voilà ce qu'on signifie, et je vous avais expliqué hein, la marche qui nous sépare. Dans le sanctuaire, on est dans l'endroit sacré. Tous ceux qui sont dans l'endroit sacré, même un enfant de cœur qui ne travaille pas, si on peut dire, qui ne sert pas à l'autel, qui assiste simplement à la messe, parce qu'il y a plus d'enfants de cœur que de postes à pourvoir, il symbolise qu'il est dans l'espace sacré. Pour être dans l'espace sacré, il faut avoir une âme pure, il faut être en bon. Voilà, vous savez tout sur les vêtements qu'on utilise à la messe. Pour les grands enfants, nous avons aujourd'hui cet évangile de la conversion de Zachée, de cette récrimination des hommes. Comment se fait-il que Jésus aille loger chez un pécheur? Je pense que dans la foule, il y en avait un seul qui ne pensait pas ça, c'était saint Matthieu, parce qu'il était lui-même ancien collecteur d'impôts. Et on se rend compte que le Seigneur, allant loger chez un pécheur, le convertit. On a entendu ce passage aussi du livre de la sagesse, relisez-le, relisez tout le livre de la sagesse. C'est un des livres de la Bible merveilleux, on comprend tout, c'est un de ses avantages. Dans le livre de la sagesse, on rappelle l'amour que Dieu a pour ses créatures. Il est dit aussi dans la Bible que le Seigneur veut que le pécheur se convertisse et qu'ils vivent. J'ai toujours été un petit peu étonné par cette phrase, parce que personnellement, je l'aurais construite dans l'autre sens. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un vive et se convertisse. Et puis à la conversion, bah, fin de l'histoire, c'est bon, on a gagné. Le Seigneur dit précisément l'inverse de ce que pense Arnold Sprint. Il faut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. La conversion n'est pas la fin de l'histoire. La conversion, c'est le début de l'histoire. D'abord, on se convertit, après on vit avec Dieu, et après on vit avec Dieu. Le Seigneur veut que nous vivions. Dans le livre de la Sagesse, on retrouve tout cet amour du Seigneur. Mais tu aimes tout ce que tu as créé, sinon ça n'existerait même pas. Quand il y a des gens qui sont au bord du suicide, en disant « mais qu'est-ce que je peux faire ? Mais personne ne pense à moi et personne ne m'aime. » Ils oublient juste Dieu. Enfin, quand bien même personne ne les aime, Dieu les aime. Mais si Dieu ne les aimait pas, si Dieu ne pensait pas à eux, ils n'existeraient même pas. Ils disparaîtraient. Ils ne seraient plus dans l'être, ils seraient dans le néant. Dieu aime tout ce qu'il fait. Alors bien sûr, il aime aussi les gens davantage. Les gens qui communient à lui, c'est-à-dire les gens qu'il a fait et qui répondent à sa volonté, évidemment. Ce qu'on aime, on aime bien sûr tous les enfants, on aime surtout les enfants sages, on les préfère, c'est quand même plus sympathique d'avoir un enfant poli, obéissant et généreux que d'avoir un seul type qu'on traite. Mais, même l'enfant pénible, on l'aime. Donc, c'est la même chose, on retrouve cet amour de Dieu infini à travers la Bible et à travers ce qui se passe. L'amour de Dieu, c'est peut-être même ce qui va convertir Zachée. Parce que lui qui se tenait à l'écart, lui qui savait que de toute façon on ne voudrait pas qu'il rentre dans le cercle, qu'il approche Dieu, c'est un publicain, c'est un pécheur, il n'a pas sa place ici. Lui qui va être rejoint par Dieu va être touché par cet amour de Dieu. Et ça va être la source de sa conversion. Et Dieu veut que le pécheur se convertisse et qu'il vive. J'ai été un petit peu blessé quand j'ai lu 1984 de George Orwell, parce que je me suis rendu compte que ma petite pensée personnelle s'y trouvait inscrite. Alors j'espère que vous avez tous lu 1984, parce que je vais vous spoiler la fin. À la fin de 1984, la personne qui a résisté au régime, qui a été emprisonné, à qui on a fait une espèce de lavage de cerveau, finit par se convertir au régime. Et à ce moment-là, il se prend une balle au détour d'un couloir. Parce que ce que veut le régime, c'est qu'il se convertisse et qu'il meure. Ou alors, qu'il vive et qu'il se convertisse, fin de l'histoire. Une fois qu'il est converti et que j'ai mis une balle dans la tête, j'ai la victoire idéologique sur lui. Parce qu'il ne peut plus se convertir, il est mort. Et il est mort avec mon idée dans la tête. Il est mort avec un assujettissement à mon régime. Big Brother is watching you. Là. J'ai la possession de son âme. J'ai la possession de son psychisme. J'ai la possession de sa vie. Et une fois que je l'ai bien en main, qu'il crève. C'est fixé, c'est avalisé, c'est emporté dans la tombe. Voilà 1984. La Bible dit précisément l'inverse. J'ai fini par me convertir à la Bible. 1984 m'a aidé à me rendre compte que la phrase de ma tête était juste dans le mauvais sens. C'est très tentant, hein. C'est Nietzsche, hein. Donc c'est sympa, mais c'est faux. Et le Seigneur, lui, vient nous dire « Je veux que tu te convertisses et que tu vives. » Sachant que si tu vis, tu peux encore me renier, tu peux encore te convertir dans l'autre sens, etc. Mais tu peux encore revenir à nouveau. Etc. Ce que Jésus dit à Saint-Pierre, ce qu'il annonce, en prévision de la suite à Saint-Pierre, ça aussi c'est une des phrases gigantesques dans la Bible pour moi, « Quand tu seras revenu, confirme tes frères. Tu vas me trahir, revenir. » Parce que tu m'auras trahi et tu seras revenu, tu seras plus fort, tu pourras toi-même confirmer tes frères, les affermir dans la foi en leur disant « Ne le faites pas, je l'ai fait avant vous, ça ne mène à rien. N'allez pas dans cette direction, je le sais. » Nous sommes invités, oui, je pense, à contempler l'amour du Seigneur qui veut notre conversion, notre retour à lui et que nous vivions, pour que nous vivions, pour que nous puissions enfin convertis, libérés du pouvoir de Satan, en pleine confiance, en pleine liberté des enfants de Dieu, comme dira saint Paul, vivre en sa présence, profiter de la vie avec lui. Dès ici-bas, puisque c'était le sort d'Adam et Ève, hein, vivre avec Dieu de façon terrestre, et dans l'au-delà, puisque la mort est entrée dans le monde par le péché, eh bien, la mort fait partie désormais de l'existence, Et au-delà de la mort, le Seigneur continuera de nous garder en communion avec lui, il nous rendra notre corps à la fin des temps, et nous pourrons vivre pleinement nous-mêmes, en communion avec lui, etc. Le dernier mot de l'histoire, c'est vivre. Vivre en présence du Seigneur, vivre en communion avec le Seigneur. Je vous invite simplement aujourd'hui, mes frères, à, comme moi, rester pantois devant cette réalité, et puis rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu pour voilà, la merveille qu'il est, qu'il a dans son cœur, cette générosité qu'il a à vouloir nous libérer et à nous donner la vie, et la vie en plénitude. Amen.